Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fait pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Dans les plaines semi-désertiques du Burkina Faso, elle ressemble à ces châteaux de sable que les enfants apprentis architectes construisent en bord de mer. Sur cette terre rouge africaine, pas d'eau, mais de drôles de construction, parfois hautes de plusieurs mètres, sorte de gratte-ciel miniature ou réplique de la Sagrada Familia à Barcelone. En s'approchant d'un peu plus près, je me souviens de ma stupéfaction à découvrir ce qui, de toute évidence, ressemblait à un travail d'ingénieur. Ces termitières géantes devenaient, à mes yeux, une ville, un espace organisé dans lequel j'imaginais tout à coup la vie de ces milliers d'insectes. Ces sculptures érigées au milieu de nulle part sont devenues un souvenir. Avant que je ne comprenne que ces constructions naturelles étaient un réservoir de biodiversité et une source d'inspiration inestimable pour nous humains confrontés à des défis environnementaux. Observer la faune, la flore pour construire nos villes et imaginer l'espace de demain, c'est un défi rendu possible en partie grâce au biomimétisme, grâce au travail mené conjointement par des scientifiques et des architectes. Reste plusieurs questions. Dans quelle ville voulons-nous vivre? À quoi ressemblera l'habitat de demain? Et vous, comment imaginez-vous votre cité idéale?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été comme jamais sur France Inter. Avec nos trois invités du jour, je vous invite à dessiner sur une page blanche ce qui pourrait être notre ville du futur. Bonjour Tariq Chekchak.
Bonjour Eva.
C'est un immense honneur de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des Futurs Souhaitables, expert associé du cabinet Pikaya, j'espère que je le prononce bien, Pikaya,
oui, tout à fait, c'est ça.
Et avec vous, nous allons regarder la nature et les animaux autrement, grâce à vous. Avec nous également Clémence Béchu. Bonjour Clémence.
Bonjour Eva.
Vous êtes directrice associée et chargée du développement de l'agence Anthony Béchu et Associés. C'est une agence d'architectes et d'urbanistes qui fête d'ailleurs ses 100 ans, si j'ai bien compté.
Oui, c'est ça, tout à fait. Je représente la quatrième génération.
Quatrième génération d'urbanistes et d'architectes, voilà. Et notre dernier invité, il est dessinateur, il est scénographe, petit-fils, fils et frère d'architectes. Bonjour François Juiten.
Bonjour.
Avec Benoît Peters, vous êtes à l'origine d'une bande dessinée culte, Les Cités Obscures, dans laquelle vous ne cessez d'inventer des villes du futur. Et vous avez une vision aussi très particulière de la ville et ça nous intéressait d'avoir votre avis. Mais pour commencer, une même question à vous trois. Vous avez carte blanche, imaginons, pour concevoir cette ville du futur. Quel est le premier bâtiment que vous allez imaginer, Tariq Chekchak?
Alors, le premier bâtiment, bien sûr, quand on est dans une ville, quelque part, on est avant tout dans quelque chose qui nous sert pour l'habitat.
Oui.
Donc, je pense que avant tout, c'est concevoir des habitats où il fait bon vivre ensemble. Donc, je mettrai au centre quand même cet archétype de la maison qui nous protège, qui est un cocon, qui est un nid. Ce nid qu'on retrouve chez plein d'espèces. Et vous parliez tout à l'heure des termites. Il y a d'autres villes dans le monde vivant qui nous montrent que ces habitats collectifs peuvent être contributifs à l'habitabilité du monde. Donc pour moi, c'est plus une philosophie d'habiter qu'un bâtiment en particulier. C'est une façon d'habiter.
Alors, ça sera l'habitat pour vous, Tariq Chekchak, et pour vous, Clémence Béchu.
Le premier bâtiment à concevoir dans une ville.
Ouais, que vous dessinez.
Une ville, c'est une pluralité de bâtiments. Aujourd'hui, on voit que nos villes se sont beaucoup étendues et nécessitent d'y concevoir aussi des habitants qui composent avec le temps. Donc moi, ça sera un bâtiment hybride dans lequel on peut certes s'abriter pour vivre, mais aussi travailler, se rencontrer et échanger et partager avec tout ce qui fait sa communauté. Voilà, un peu comme dans une fourmilière.
Ah ben voilà, comme une fourmilière, on a parlé des termites, on va évidemment parler de tous ces insectes. François Chuitane, l'exercice est trop facile pour vous parce que vous dessinez des villes en permanence. Donc dans votre cité idéale, dans cette ville du futur, je me suis demandé quelle odeur vous aimeriez sentir.
D'abord, l'odeur de l'histoire du lieu, l'odeur de ce qui a nourri, de ses racines, de son parfum essentiel, je dirais, avant même de construire, si pour répondre à votre première question.
Oui.
Je crois que j'aimerais un bâtiment qui nous apprenne à regarder le lieu, à apprendre à le connaître, avant de construire même, parce que c'est souvent ce qui manque. Il manque une connaissance un peu intime des lieux, un petit peu souterraine, parce que souvent on fait des gestes un peu trop vite. Et c'est pour ça que j'aime dessiner, parce que le dessin vous apprend à, lentement à découvrir et à connaître.
Tout en s'inspirant du passé, on va évoquer tout votre travail, évidemment. Tariq Chekchak, est-ce qu'on peut commencer par un petit travail de définition, parce que j'ai prononcé le terme de biomimétisme il y a quelques secondes. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que mon exemple des termitières était un bon exemple?
Ah oui, tout à fait. Ça nous montre d'ailleurs encore une fois qu'on n'est pas la seule espèce. On est une espèce de singe tout à fait particulière, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a aucun autre singe qui peut vivre dans des mégapoles de plusieurs millions d'habitants. Et c'est un enjeu crucial de l'époque, 50% de la population mondiale d'ici 2050 qui vivra dans les villes. Et il y a d'autres espèces, que ça soit les insectes sociaux, mais aussi une colonie d'oiseaux marins qui créent en fait pas des villes bien sûr, mais en tout cas des habitats collectifs extrêmement complexes. Et on peut apprendre de cela, justement, encore une fois, pour moi, l'enjeu central, c'est l'enjeu de la transition. Comment répondre aux enjeux des besoins humains fondamentaux, dont habiter, dont se nourrir, donc se loger, se nourrir, donner du sens à sa vie, à travers le prisme de comment répondre aux enjeux carbone, de bouleversement climatique et à la destruction de la biodiversité générée par ces villes, puisque c'est une des premières causes de la disparition massive de la biodiversité. Alors là, effectivement, on peut s'inspirer du vivant, encore une fois, parce qu'il y a des tas de façons d'habiter un territoire ou des territoires sans détruire, en fait, l'environnement qui vous accueille. Et c'est là où le biomimétisme intervient. Et pour répondre à votre question plus précisément, c'est l'art de s'inspirer de la nature pour répondre à ces enjeux-là. Ça, c'est plus récent que la bio-inspiration. La bio-inspiration, c'est aussi vieux que l'humanité.
Oui.
Par contre, le faire avec cette philosophie, cette posture qui est de dire on essaye petit pas, grand pas, après on voit ce qu'on peut faire, mais de répondre à ce cahier des charges, ça, c'est une Américaine qui s'appelle Janine Binius qui, dans les années 90, a posé cette intention-là au cœur de l'approche. Et
oui,
c'est ça qu'on appelle le biomimétisme.
Alors, c'est ce que vous dites, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une conception et une philosophie de vie, mais il y a des réalisations concrètes. Clémence Béchu, par exemple, vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle Skolkovo. De quoi s'agit-il exactement pour que justement les auditeurs comprennent l'influence de la nature, l'inspiration de la nature dans un projet urbain concret?
Oui, tout à fait. Alors le projet s'appelle donc c'est un quartier de chercheurs qui se situe au sein du Skolkovo Innovation Center, qui est un pôle de compétitivité au sud-ouest de Moscou. Donc c'est un projet qui est issu d'un concours qu'on avait remporté où on avait un schéma directeur circulaire imposé, avec un programme qui nous demandait de développer une centaine de maisons pour des chercheurs, donc et organisé autour d'un pôle multi-usage, mutualisé, et dans une région où le climat est particulier parce qu'il a des amplitudes thermiques très importantes qui vont de moins 40 à plus 35 entre l'hiver et l'été.
Oui.
Et donc nous, on avait donc dans notre démarche biomimétique le besoin de répondre à une question en particulier. Je souligne ce sujet parce qu'il est très important dans toute démarche biomimétique d'avoir des enjeux et des objectifs auxquels répondre par la démarche. Et donc nous, notre enjeu était de pouvoir apporter une solution efficiente en matière énergétique. Et donc on a recherché quelle population animale présente dans la nature, dans des milieux complexes climatiques comme cela, pouvait nous inspirer pour en comprendre le fonctionnement et l'adapter à notre projet. Et donc on a trouvé que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise était structurante et inspirante.
Ouais.
Puisqu'on connaît tous cette image des pingouins qui s'organisent en cercles concentriques. Et en fait, ils le font selon l'intelligence de la nature. On parle de mathématiques fractales pour générer des radiants de chaleur qui leur permettent de générer des îlots de chaleur naturels pour se protéger du froid et ainsi les plus faibles. Et donc, à partir de ce dessin, on a identifié des biologistes. Donc, on parlait tout à l'heure d'une approche scientifique et de composition pluridisciplinaire pour comprendre cette organisation sociale et intégrer cette donnée naturelle dans nos dessins paramétriques. Donc ça, c'est la technologie qui nous permet de pousser l'approche biomimétique pour rendre notre dessin intuitif actif et ainsi générer une organisation de maisons par sous-groupe de maisons qui chacun génère des îlots de chaleur naturels à raison de 5 degrés, ce qui permet d'économiser des besoins en matière de chauffage.
Voilà comment des maisons sont devenues des sortes de pingouins, des pingouins urbains, des pingouins pour les chercheurs que vous avez conçus, Clémence Béchu. François Chuitaine, quand vous entendez Tariq Chekchak ou Clémence Béchu, est-ce que cette approche de l'architecture, ça vous inspire? Vous qui avez tendance plutôt à imaginer des villes comme des dystopies dans vos bandes dessinées.
Utopie, dystopie, les deux.
Oui, les deux, c'est vrai, c'est vrai.
Ce sont deux éléments un petit peu presque nécessaires.
Oui.
Si pour l'instant, la dystopie, on en a quand même pas mal et il y a beaucoup, beaucoup. beaucoup de visions négatives, mais on a besoin de rêver, c'est ce qui nous manque. Et ce que j'entends, c'est évidemment formidable de penser qu'on peut imaginer, qu'on a des modèles qui nous permettent de réinventer l'habitat et de le rêver autrement. On en a bien besoin. Et c'est formidable d'avoir des perspectives comme celle-là.
Tarek Chekchak, avec l'équipe, on a compilé tous les articles de presse ces derniers mois qui étaient relatifs à la ville du futur. Et ce que j'ai lu, c'était qu'on évoquait la végétalisation, des toits par exemple, des toits des villes. On parlait de zones piétonnes, de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles technologies qui inquiètent d'ailleurs les citoyens, de recyclage des déchets. On parle de smart city, de la ville du quart d'heure, oui, tout faire en moins de 15 minutes autour de chez soi. Alors, sans remettre en cause ces projets, mais est-ce que la ville de demain ne mérite pas mieux ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas changer notre vision et regarder un peu plus loin, oser plus que d'imaginer une végétalisation des toits de Paris ? Oui, des autres villes, je dis Paris pour faire simple.
Je vais essayer de pas être trop long parce que c'est un thème vraiment passionnant. Les premières villes sont apparues dans l'histoire de l'humanité au néolithique. Et ça a changé radicalement en fait notre façon de concevoir l'espace. Et puis il y a eu toute une période où on était connecté malgré tout au flux solaire. L'agriculture était la première source d'énergie, hein. Ensuite ça se transférait dans les autres niveaux de la société, mais on était tous branchés sur l'énergie solaire. Sont venus les hydrocarbures. Et là on s'est découplé des flux naturels. Et on a créé en fait des mégapoles en se branchant sur une source énergétique qui est artificielle quelque part, que la nature d'ailleurs avait extrait cette énergie pendant des millions et des millions d'années, hein, les hydrocarbures, le pétrole, etc. Et on s'est retrouvé en fait un surdimensionnement en fait des villes, avec également une mécanique avec l'industrialisation de la planification urbaine, c'est-à-dire vraiment une vision de l'optimisation. Et ce que disait tout à l'heure M. Skutan est très intéressant, c'est-à-dire il est temps maintenant, on voit qu'on a été dans les excès, hein, et c'est pas la première fois, hein, même après les excès de la première révolution industrielle, il y a eu un besoin de retour à la nature, à travers l'art moderne par exemple, les motifs floraux qu'on va retrouver encore d'ailleurs dans les entrées de métro parisien, hein, ça vient de tout ça, la Sagrada Familia, etc. C'est bien un besoin de nature qui est en train de se réexprimer actuellement, face aux excès également d'un capitalisme un peu débridé et d'une vision très optimisatrice, on va dire planificatrice. Et beaucoup de philosophes de l'urbanisme pensent, comme Thierry Pacaud ou Thierry Geffray, un philosophe paysan, qu'il faut passer de l'aménagement au ménagement du territoire, qu'il faut passer du paysage au paysage. Oui. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant où on n'est plus tellement dans la planification imposée et on vous demande en gros de vous donner votre avis sur des documents programmatiques, mais on est dans le sensoriel, dans ce que la population désire. Et le désir de nature fait partie, avec la crise de la Covid, on voit ça très très fortement aussi émerger, le désir de réintégrer finalement de la nature dans la ville, pas simplement pour de l'esthétisme, pas simplement pour verdir la ville. Je pense que le signal qui est en train d'essayer d'émerger, puisqu'on s'intéresse au sein de l'Institut à la prospective des souhaitables, c'est vraiment une vision écosystémique de la ville, bonne pour les humains, mais bonne aussi pour d'autres espèces qui habitent ce territoire et qui ont besoin aussi de travailler avec nous à garantir l'habitabilité du monde pour les générations qui viennent.
Donc c'est ça, c'est renouer avec le vivant, entre nous et tout le vivant qui comprend la faune et la flore, au sein même de ces villes-là. On a reçu un message, une note vocale d'une auditrice, je vous propose de l'écouter.
Bonjour, je suis Doriana, j'ai 36 ans et j'habite à Paris. Et avec tout ce qu'on vit, eh bien, je me dis que la ville de demain, j'ai peur qu'elle soit cloisonnée, donc stérilisée. Alors que ce sont bien les rencontres et les échanges qui pollinisent la vie. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut créer des zones de rencontres protégées ? Et est-ce que la nature fait déjà ce genre de prouesse ? Merci.
Alors Tarek Chekchak, est-ce que la nature fait ce genre de prouesse ?
Alors c'est intéressant parce que la nature déjà, la nature c'est une façon quelque part de se séparer d'elle que de la définir comme ça.
Oui.
Philippe Descola dit, même dans pas mal de cultures, le mot nature même n'existe pas. Et c'est très intéressant de voir ensuite qu'il y a différents types de systèmes vivants, dont ce qu'on appelle des écosystèmes, une forêt, un récif de corail. Et qu'est-ce qu'un écosystème si ce n'est forcément un lieu de rencontre ? Un lieu de rencontre entre plein d'espèces qui sont dans une dimension circulaire aussi de leurs échanges. Et dans ces échanges-là, il y a des échanges matériels, d'énergie. La feuille de l'arbre, qui est un panneau solaire extraordinaire, faite à température ambiante et à pression ambiante dans de l'eau, devient nourriture, une fois qu'elle n'est plus utilisée comme panneau solaire. Et ce n'est pas juste qu'un panneau solaire, on reparle de la multifonctionnalité hein, qui a été mentionnée tout à l'heure. C'est aussi une zone d'échange de gaz, c'est aussi un matériau pour construire un nid, etc. etc. Donc il y a la dimension de la circularité. Et chez les espèces sociales, on n'est pas simplement dans les aspects matériels et énergétiques, on est aussi dans les échanges sociaux. Il y a différents types d'interactions qui existent dans des écosystèmes. Certaines peuvent être de la prédation, du parasitisme, mais ce qui crée le plus de valeur dans le vivant, c'est pas ces relations où un gagne et l'autre en apparence perd, c'est la symbiose, c'est la relation mutuellement bénéfique. Et nous, espèces culturelles, on a peut-être intérêt à aussi voir ce qui est souhaitable comme type d'échange maintenant pour faire société ensemble, retisser de la confiance. Et la symbiose est un excellent exemple de cela, même chez des espèces qui n'ont pas cette dimension culturelle. Il y a beaucoup de création de valeur grâce à ça.
Et c'est possible d'organiser tout ça dans la ville, dans cette ville du futur qu'on essaye de dresser ensemble tout au long de cette heure sur France Inter. Je vous propose donc de rêver dans un instant en imaginant cette ville de façon un peu plus concrète. Par exemple, à quoi va ressembler notre habitat, nos modes de transport, notre environnement urbain de façon plus globale. Mais vous, comment vous l'imaginez cette cité idéale? Devenez architecte urbaniste le temps d'une émission et racontez-nous comment vous envisagez votre espace de demain. Pour cela, vous le savez, il y a le téléphone 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale via l'application France Inter. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission « L'été comme jamais ». About It par le groupe électropop anglais Jungle sur France Inter.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Un été comme jamais se délocalise dans le futur ce matin avec Tariq Chekcha, Clémence Béchu et François Schuiten. Ensemble et avec vous, auditrices, auditeurs, nous tentons d'imaginer la ville du futur. Mais avant de resserrer notre focale et de nous intéresser plus en détail à cette cité idéale, notre réalisatrice Juliette Medevial a compilé 4 voix d'architectes. Il y est question de ce que doit être, à leurs yeux en tout cas, l'architecture d'aujourd'hui.
L'angle droit n'existe pas dans la nature.
Vincent Calbeau.
Grâce au biomorphisme, à la bionique ou au biomimétisme, on s'inspire des formes, des structures que les êtres vivants ont mis en place dans des écosystèmes matures et on les rapatrie au cœur de nos villes hyper bétonnées.
Je crois aux immeubles qui ont des racines.
Jean Nouvel.
Qui savent où ils sont, qui savent pourquoi ils sont faits comme ça. Et je trouve que le travail d'un architecte aujourd'hui, c'est celui-là. Donc ça conduit à une série d'objets uniques.
Parce que je crois que la modernité est un projet achevé.
Rudy Ricciotti.
C'était un projet de rupture. Et aujourd'hui, l'architecture a pour objet de fabriquer du lien, de fabriquer du tempérament, de fabriquer du récit, de la narration, du sens.
Plutôt que restructurer en profondeur, modifier lourdement, démolir ou remplacer.
Anne Lacaton.
Notre stratégie est plutôt d'ajouter, de superposer, additionner, pour créer un nouveau lieu qui se recompose à partir des capacités existantes et de celles que l'on ajoute. C'est aussi le principe de ne rien perdre.
Clémence Béchu, je m'adresse à l'architecte que vous êtes. Ne rien perdre, c'est aussi votre démarche ? Est-ce qu'on a perdu Clémence ? On a peut-être perdu Clémence Béchu. Tariq Chekchak, quand vous entendez ces architectes, comment vous réagissez ? Est-ce que leurs mots vous conviennent au fond ? Conviennent à l'ingénieur biologiste que vous êtes ?
Ah, ça illustre vraiment en fait une vision qui passe effectivement de l'urbanisme, encore une fois notion née au 19e siècle dans la première révolution industrielle, à une vision qui était un petit peu trop peut-être la ville plateau technique où on va brancher en fait des fonctionnalités, une gare par-ci, de l'habitat par-là, etc., à quelque chose de plus organique, y compris dans les formes, les courbes, mais aussi dans la façon de concevoir, favoriser l'émergence plutôt que la planification. Alors ça, je trouve que oui, ça résonne beaucoup de ce point de vue-là.
Vous parlez des courbes. Je voudrais juste vous lire deux messages de deux auditeurs qui nous ont écrit sur franceinter.fr. Bernard, par exemple, qui dit « Les villes actuelles manquent beaucoup de rondeur et pourtant, la forme sphérique serait la plus adaptée pour l'habitat puisque c'est la forme pour laquelle, pour un même volume, les surfaces d'échange avec l'extérieur, donc les pertes thermiques, sont les plus petites. Et pour quelles raisons reste-t-on sur des traditions très anciennes d'habitat cubique et souvent avec toujours les mêmes matériaux employés, nous demande-t-il. Est-ce que vous avez une réponse à ça ?
Alors, une partie peut-être de la réponse, je suis sûr que Clémence pourrait certainement compléter, mais c'est sûr qu'il y a une histoire de performance en termes de coût,
ouais.
Mais selon une vision de la performance qui est biaisée. C'est-à-dire qu'on voit le coût financier, mais on ne voit pas le coût environnemental. Par exemple, l'angle droit, effectivement, est plus facile à faire d'une certaine façon que les courbes. C'est en train de changer avec des nouvelles technologies dont on voit juste l'émergence pour le moment, hein, même s'il y a déjà des applications à l'échelle de la ville qui sont intéressantes, comme l'impression 3D. Effectivement, le vivant construit pas par moule. Le vivant construit par construction additive. C'est-à-dire des cellules d'os qui se déposent couche par couche. Et l'impression 3D, si tant est qu'on arrive à réfléchir à la nature des matériaux qu'on va utiliser également pour qu'ils soient compatibles avec un climat viable et une biodiversité qui ne soit pas détruite, alors ça ouvre de nouveaux champs des possibles,
oui.
En termes de possibilités de formes peut-être plus variées qu'effectivement aiguës.
Alors ben Xavier, justement, qui nous a écrit également sur franceinter.fr, nous dit « J'imagine une ville en harmonie avec la nature, de forme circulaire. » Vous voyez comme quoi ces formes rondes, on en a besoin, où les bâtiments interagissent les uns avec les autres pour la production de chaleur, d'énergie, de nourriture, afin d'avoir le minimum d'impact sur son environnement. Tourné vers le bien-être, de nombreux parcs jalonnent le plan avec des installations culturelles et sportives en leur sein. Voilà, on a les mots culture, on a les mots de sport qui apparaissent aussi, parce que c'est ça aussi dessiner la ville du futur, c'est imaginer quel genre d'aménagement on a envie d'avoir autour de nous.
Très brièvement, ça me permet de dire une chose, j'ai la chance de collaborer, je pense, avec Clémence également au CEBIOS, Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme, qui a créé en fait un laboratoire de réflexion sur la ville du futur, justement, et biomimétique. Et on parle de plus en plus, je pense entre autres à la thèse d'Eduardo Ancourt, ou bien même Estelle qui a travaillé sur les membranes des bâtiments, concevoir le bâtiment comme un système vivant, déjà. Un bâtiment construit même avec des matériaux qui vivent, hein, le mycélium de champignons par exemple, qui peut être utilisé avec des déchets agricoles pour construire des cloisons. Il y a des expérimentations en cours extrêmement passionnantes à ce sujet-là, ou avec des bactéries, des bétons auto-cicatrisants par exemple, des spores de bactéries qui au contact de l'eau vont pouvoir générer de la calcification. Donc on est dans l'auto-cicatrisation,
oui.
Un principe du vivant. C'est en train d'arriver, donc on est dans l'expérimentation encore, mais des choses extrêmement passionnantes. Et plus largement, concevoir la ville vraiment comme un système vivant, un écosystème, ce qu'elle est d'ailleurs.
On a retrouvé Clémence Béchu. Clémence, si je dois vous demander à quoi va ressembler notre habitat dans les 20 ou 30 ans à venir, qu'est-ce que vous pouvez me répondre ? À quoi vous rêvez, vous, dans l'idéal, comme habitat ? Alors, on a de nouveaux problèmes techniques. François Schuiten, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas parti. Est-ce que j'avais oublié de vous poser une question quand même importante. Est-ce que vous aimez la ville en général ? Est-ce que le milieu urbain... Et votre espace préféré ?
Mais bien sûr.
C'est vrai, vous aimez ça, oui.
J'aurais difficile à le cacher, tout mon travail en témoigne. J'aime les villes parce que ce sont justement des lieux de concentration, de lieux d'échange, de lieux de vie profond, parce qu'on est là, on se côtoie, c'est magnifique et c'est nécessaire. On ne peut pas imaginer un monde où on tartinerait nos campagnes de maisons quatre façades. Les villes sont absolument nécessaires et justement, il faut les réinventer, mais il faut les réinventer avec respect. Donc moi, ce qui m'embête un peu, c'est quand on me propose des solutions qui sont un peu, générales, qui peuvent autant se mettre à Dubaï qu'à Pékin qu'à New York. Je crois que chaque ville a quand même une identité. Elle a un ADN. Et il va falloir aussi travailler avec ça, travailler avec son histoire, avec son récit, et dialoguer. Il faut des couturières qui accompagnent cette progression, une ville, c'est un monde organique, on est bien d'accord, mais un organisme qui a une histoire. Et il ne faut pas des ruptures violentes. Il faut l'accompagner, il faut faire grandir les villes avec de nouvelles contraintes, avec de nouveaux besoins, mais en sachant bien leur histoire.
J'aime beaucoup une de vos BD, François Schuiten, qui s'appelle Revoir Paris. Vous imaginez la capitale en 2156. Alors la date n'est pas due au hasard, hein. Vous avez ajouté 2 siècles à votre année de naissance. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ce Paris-là pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail et qui ne connaissent pas cette bande dessinée? À quoi ressemble? Comment vous avez imaginé ces habitations, ces modes de transport?
Alors là, c'est assez dystopique, hein, je dois vous avouer. Une dystopie d'ailleurs qui peut être pour certains assez agréable, puisqu'en fait, le cœur de Paris est complètement mis sous cloche et muséifié. Oui. Il fait toujours beau, c'est un avantage pour des étés comme celui-là. Il y a toujours un parfum agréable qui circule. Donc c'est un petit peu le danger justement d'aller trop loin dans le fait d'ossifier, enfin de figer une ville dans son aspect un peu carte postale, dans ce qui le rend attractif aux yeux du monde, c'est un vrai risque. Et donc là, on est allé jusqu'au bout. On a montré un petit peu cette espèce de dimension absolument terrifiante où il faudrait presque se déplacer en calèche parce que il y a ce Paris haussmannien qui aurait été comme le modèle définitif et que tout objet, tout projet après celui-là serait rejeté. Donc on l'aurait éternellement comme ça figé dans une image éternelle. Mais bon, c'était un projet amusant parce que on montrait aussi comment on aurait des Paris répliqués, Paris pour éviter d'user la ville. Enfin, des tas de choses comme ça qui sont effectivement très très inquiétantes sur ce que peut être l'intérêt des touristes d'avoir une image préétabli.
Complètement. Merci François Schuiten. On va prendre Michel qui est paysagiste et qui est en ligne avec nous. Il vient de nous appeler. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Michel Pénard, oui, paysagiste.
On vous écoute Michel. Vous vouliez réagir à tout ce que vous venez d'entendre?
Oui, non, je voulais réagir. D'abord, je suis paysagiste concepteur, donc beaucoup des paysagistes travaillent sur ce sujet-là quotidiennement, et depuis des années maintenant. Sur Paris, moi j'ai transformé 35 hectares en tout quand je fais le cumul de Paris. Et je voulais juste évoquer une expérience récente que nous venons de faire à Nice, sur laquelle nous avons vraiment transformé la ville, c'est-à-dire des espaces qui étaient très minéraux, des grands bâtiments en béton même que nous avons démolis, pour faire des espaces végétalisés qui concilient à la fois une biodiversité et une sensualité, je dirais, nouvelle de la ville qui est très accueillante pour les gens. Il y a eu 15 millions de visiteurs depuis que nous avons ouvert la promenade du Paillon à Nice.
Oui.
Et récemment, l'année dernière, il y a 2 ans, nous avons transformé des rues entières de Nice grâce aussi à la rationalisation des transports. Il faut comprendre que, évidemment, tout ça, c'est une nouvelle pensée de la ville, et notamment les transports collectifs, notamment les tramways, libèrent de l'espace qui avait été colonisé par la bagnole, parce qu'il faut comprendre que la voiture a colonisé tous les espaces de la ville pendant quand même beaucoup d'années.
Bien sûr.
Aujourd'hui, grâce au tramway, grâce au transport rationalisé, et notamment sur Nice, si vous voulez, il y a 6 km de rues qui sont en cours de végétalisation, mais qui étaient entièrement minérales. Et là, nous avons travaillé sur 2 km, et c'est tout à fait visible, on peut y aller. On a réalisé des rues-jardins, en redonnant de l'espace aux promeneurs, aux marcheurs, pas seulement aux promeneurs, mais on crée une nouvelle fonctionnalité de la ville aussi, parce que si vous voulez, sur la promenade du Paillon, je vois très bien que ça fait 1,5 km de long et les gens maintenant marchent, tout simplement. Pour aller d'un point à l'autre de la ville alors qu'ils prenaient leur voiture auparavant. Vous comprenez? Donc c'est une transformation. Alors je viens juste d'écrire un livre qui s'appelle « Changer de mode de ville ». Changer de mode de ville pour changer de mode de vie. Et je crois que c'est absolument cohérent et c'est absolument lié. C'est-à-dire qu'il faut changer l'environnement des villes, lui donner beaucoup plus de sensualité, mais aussi beaucoup plus de naturalité, grâce à la naturalité de la sensualité. Toute naturalité n'est pas nécessairement bonne non plus.
Bien sûr. Mais
il faut une naturalité relative. J'appelle ça la troisième nature. Vous voyez, donc il faut réinventer une nature qui soit conciliante et conciliée avec l'usage urbain, évidemment. Parce qu'on est tous dans cette problématique et cette contradiction qu'il faut à la fois une ville plus dense pour éviter de coloniser les campagnes comme on l'a fait aussi pendant
des dizaines d'années. C'est tout l'enjeu. Et oui, bien sûr.
Il faut arrêter de bouffer les terres agricoles, des bonnes terres végétales, des bonnes terres pour avoir une ville plus dense, mais aussi une ville plus naturelle. Et en effet, c'est ça l'enjeu.
Michel, avant de vous remercier de nous avoir appelé, je précise une chose parce que je suis niçoise, donc je connais très bien les aménagements dont vous venez de parler.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez bien préciser qu'on ne se connaît pas vous saviez pas que j'étais niçoise, par exemple.
Mais vous avez raison.
Nice est une des plus belles villes au monde, on peut le dire.
Mais c'est surtout qu'il y a aussi une politique, si vous voulez, qui a permis. Quoi qu'on dise de la politique, mais il faut absolument des maires volontaires, et je remercie encore une fois les maires des villes qui prennent à bras le corps cette question-là pour transformer leur ville, quitte quelquefois à être critiqués parce qu'ils réduisent l'espace de la voiture, par exemple des parkings. Et là, sur Nice, on a vraiment détruit des bâtiments qui étaient odieux, quand même, des bâtiments en béton, vraiment, qui étaient le signe des années 60, pour faire des jardins.
Oui.
Et je crois que la ville-jardin, c'est une réalité. Enfin, c'est la rue Jardin, par exemple, si vous allez à Nice, vous prenez la rue Botero et vous poursuivez, vous verrez, c'est devenu des rues Jardin, alors qu'auparavant, c'était que du minéral, que du
Michel,
béton.
Pardon, je vais vous couper parce qu'on a d'autres auditeurs qui veulent réagir, et puis je voudrais faire réagir aussi Clémence Béchu et Tariq Chekchak sur ce que vous avez dit. On vous remercie infiniment de nous avoir appelé. On vous souhaite une excellente journée, et évidemment, allez tous visiter Nice. On va écouter un petit peu de musique et vous allez voir, ça a un rapport avec notre thème du jour. Et on revient pour parler justement de végétalisation et de transport.
De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Sur la peau.
Monopolis, extrait de Starmania sur France Inter, une chanson interprétée par France Gall dans cette comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon, qui ont pensé la Cité du Futur, c'était en 1979. Un monde peu réjouissant, comme le cinéma a pu l'imaginer également, de Metropolis à Gotham City, en passant par Le Cinquième Élément ou encore Blade Runner. D'ailleurs, François Schuiten, est-ce que le cinéma vous inspire dans votre travail de dessinateur, ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est vos dessins qui inspirent le cinéma?
Écoutez, de toute façon, le cinéma de science-fiction a été là pour nous projeter sur des villes du futur, et c'est vrai qu'il y a eu des visions particulièrement impressionnantes. Vous avez parlé de Metropolis, vous avez parlé de Blade Runner, il y en a eu encore d'autres. On est un petit peu en manque aujourd'hui, on est un peu en manque de vision vraiment. Minority Report était très intéressant.
Oui, tout à fait. Oui.
Sur certaines hypothèses du futur, parce qu'il avait travaillé avec des scientifiques, avec des urbanistes, et là, on sentait qu'il y avait un vrai travail. Sinon, je suis un peu fatigué des clichés ou dystopiques ou apocalyptiques ou trop excessivement, je dirais, utopiques. Et il manque vraiment aujourd'hui de nouveaux films qui nous donnent à voir ce que peuvent être les villes de demain. Et c'est vrai que je suis un peu en manque. Je crois qu'actuellement, les vraies visions, elles ne sont plus chez les cinéastes sur les villes du futur.
Alors j'ai tendance à penser, François Schuiten, qu'il y a un peu de la poésie partout, c'est mon côté ultra optimiste, et je le disais en début d'émission, dans votre famille, l'architecture coule un peu dans les veines, et dans les mots de votre frère, Luc, qui est un architecte de renom, Luc Schuiten, il y a de la poésie. Écoutez-le quand il imagine sa maison idéale.
Au départ, c'était quelque chose, un très art nouveau. Pourquoi est-ce que je refais ces formes-là? Et puis je réfléchis, il y a peut-être moyen de faire mieux, plus juste, plus vrai, plus honnête, travailler avec la matière même telle qu'elle a poussé. Et là, j'ai commencé à imaginer des structures qui ont poussé. Ben oui, un arbre, c'est après tout une colonne, des poutres. Donc ici, on prend les arbres, on guide la croissance avec des tendeurs, des tuteurs, des tailles, des greffes, toutes sortes de choses, pour avoir une forme approximative qui nous convient. Et puis on referme l'ensemble avec du verre, des biotextiles. Donc là, j'ai commencé à imaginer qu'on pourrait travailler avec autre chose, avec des matières souples.
Alors avant de parler de matière avec Clémence Béchu, François Schuiten, est-ce que vous avez des discussions engagées, vives parfois, avec votre frère quand il s'agit de penser la ville?
Ah ben écoutez, il a 12 ans de plus que moi, donc il m'a complètement nourri au biberon, je dirais, de ses désirs, de ses visions. C'est un vrai architecte utopiste dans tout le sens du terme. Et c'est vrai que son archiborescence, tous ses projets, ça donne vraiment envie. Il y a du souffle chez lui, et il n'a jamais été aussi autant à sa place que dans cette vision-là. Et c'est quelqu'un qui a peu construit, il a quand même construit, il est quand même confronté au réel, mais c'est surtout dans l'imaginaire qu'il a eu, je dirais, le travail le plus intéressant.
Mais alors dites-moi, qui est le plus rêveur des deux ?
Ben écoutez, moi j'ai tendance à être un peu parfois plus dystopique, ça mène toujours parce qu'en fait j'ai besoin d'un récit. Et dans un monde parfait, je suis pas sûr qu'il se passe beaucoup de choses. On peut pas créer de récits fantastiques très inquiétants. Et donc, mes villes, oui, il y a devant toujours un élément assez positif, et en même temps, il y a toujours quelque chose qui fonctionne de travers.
Clémence Béchu, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de forme, de conception, mais qu'en est-il des matériaux? Je prenais l'exemple de la gastronomie, où l'avenir, on sait, passe en partie par les algues. Est-ce que c'est pareil en architecture? Alors, est-ce qu'on a encore perdu Clémence? Clémence, on la perd et elle revient, elle perd et elle revient. Tariq Chekchak, vous pouvez nous répondre sur cette question des matériaux aujourd'hui qu'on utilise? Enfin, aujourd'hui et demain surtout.
Oui, tout à fait. Donc, on est en train de passer d'une vision peut-être un petit peu biomorphique, c'est-à-dire on va s'intéresser avant tout à la forme, à quelque chose qui est un potentiel de changement, à mon avis, plus grand, qui est effectivement de quoi c'est fait. Et là, le vivant nous donne des exemples incroyables de biomatériaux, donc qui sont fabriqués encore une fois à température et pression ambiante, qui fixent du carbone. On est encore en train de se demander comment réduire nos émissions, et c'est une question importante puisqu'on a 70% des émissions qui viennent des villes, hein, et pour 3% de la planète à peu près qui est couverte par les villes, on a 60 à 80% de la consommation d'énergie qui vient des villes, et donc 70% des émissions.
Et on se rend compte. Alors, par exemple, vous pouvez nous donner des exemples de ces matériaux?
Le plus basique, hein, que tout le monde connaît, c'est utiliser du bois, ça fixe du carbone.
Oui.
Mais ça veut dire que derrière, il y a des enjeux de filière. mais aussi ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, qui peuvent être des déchets de l'agriculture qu'on l'a brûlé avant pour faire de l'énergie, peuvent très bien se transformer grâce aux champignons, par exemple au mycélium de champignons, en matériaux. Il y a un exemple actuellement fait en Hollande, le Growing Pavilion, où on construit avec donc des déchets végétaux, et les champignons construisent en fait, donc littéralement ça pousse. C'est pas exactement comme le disait Luc, c'est pas des arbres, mais c'est quand même des organismes vivants, et il y a toutes sortes de réflexions à travers le monde sur comment augmenter ce potentiel en fait de bâtiments et d'enveloppes de bâtiments vivantes grâce à des matériaux biosourcés, voire vivants. Alors après, la question des matériaux, elle est vraiment cruciale, parce que ça pose la question de la fin de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois que le matériau a fini de vivre? Est-ce que on va faire des alliages entre des matériaux composites qui comprennent en partie du plastique, en partie des matériaux vivants, et on pense que tout est réglé parce qu'on le voit plus, mais il y a aussi la décomposition. Qu'est-ce qui se passe pendant cette décomposition-là? Et un dernier exemple d'une entreprise qui pousse très très loin cette réflexion-là, c'est Ulteria, sur leur site industriel, qui conçoivent leur bâtiment industriel de façon à ce qu'il soit complètement recyclable en fin de vie, avec toutes les contraintes légales, réglementaires, etc. Mais là, c'est vraiment des réflexions intégrées qui prennent pas une petite portion de la problématique.
Clémence Béchu, est-ce que on vous a retrouvé?
Oui.
Oui, Clémence, on parlait des matériaux. On a parfois l'impression que toutes ces visions que l'on a à la fois de la ville de demain en termes d'architecture, de conception et de matériaux est un peu utopique. Mais est-ce que vous, concrètement, aujourd'hui, vous travaillez avec de nouveaux matériaux?
Oui, on essaye. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant au niveau des matériaux et pour faire un pendant avec le monde de la nature, c'est quand on regarde par exemple le castor. Le castor, quand il construit son barrage, il ne va pas chercher son bois à 300 km. Il regarde ce qu'il a autour de lui. Et donc nous, ce qu'on fait, on travaille en France, mais aussi ailleurs, comme au Sénégal par exemple. On cherche à voir quelle matière autour de nous pourrait être transformée en matériaux de construction, et si possible, par là même, transformer une contrainte en opportunité. Je m'explique. Il y a par exemple en ce moment à Paris tout le projet du Grand Paris Express, qui génère beaucoup de terres excavées.
Oui.
Il y a une usine qui commencera son activité en septembre à Sevran, qui s'appelle l'usine Cycleterre, qui vise à transformer toute cette terre excavée en différents matériaux composites à base de terre crue, pour faire des briques, des enduits, etc. Et que nous, on a déjà intégré dans certains projets qui sont en cours et qui naîtront. Je parlais du Sénégal. Au Sénégal, il y a un problème de plantes qui s'appelle le typha, qui pousse dans les mangroves et qui asphyxie énormément les eaux locales. Il y a tout un projet qui a été porté par l'ADEME, auquel on a participé de façon indirecte, pareil en l'intégrant à nos projets, qui permet à des populations locales d'aller récolter ce typha, désasphyxier les eaux et le transformer avec de l'argile en matériel de construction, en sorte de parpaings qui sont des très bons isolants. Et qui par là même donc permettent d'abriter les populations en fournissant de l'emploi. Il y a un même travail qui est mené par un de nos confrères qui s'appelle Nicolas Vernoux de l'agence In-Situ, qui lui a travaillé sur les algues sargasses.
Les fameuses algues, oui.
Des algues aux Antilles qui, pareil, sont en développement assez intense. Et donc, il y a tout un projet qui s'appelle Terre d'algues, qui est en cours de développement et qui vise à créer un alliage comme ça, de compression de ces algues avec de l'argile pour fabriquer des briques.
On voit que ça avance. Voilà.
Regardons autour de nous.
Ouais. Clémence, on a reçu beaucoup de messages d'auditeurs, par exemple Lionel qui nous dit « Je vois la cité idéale de demain comme un lieu de partage, de rencontre, de culture, de joie et d'harmonie. » C'est aussi ça, c'est aussi la ville de façon poétique, sans être optimiste, Béa, évidemment. Il nous dit « Chaque famille vivant dans son habitat cocon, autonome, écologique, groupée en une cité d'habitation, la symbiose se crée et s'accroît par le partage et la culture, encore une fois. » On a aussi Sophie qui nous dit « Quand je pense à la ville du futur, je pense directement au développement durable et je pense aussitôt à Fribourg en Brisgau. C'est une green city, une ville verte en Allemagne, notamment qui travaille sur les énergies renouvelables, la mobilité douce, l'habitat passif, les jardins partagés. Elle nous dit que c'est selon moi un exemple très inspirant et totalement adaptable ailleurs. » Et puis François Schuiten, vous allez être content, on a reçu un message de Anne qui nous dit « Et si la ville de demain était en partie née d'hier ?» Créer une ville qui articule davantage entre espace privé et espace collectif, par exemple, qui met la politique, la citoyenneté au cœur de la cité, eh bien tout ça, qui utilise les matériaux comme des bâtiments dans une véritable économie circulaire du bâti. Tout ça, c'est la ville du futur. Mais ce sont les fondamentaux de l'urbanisme romain. Et elle nous suggère une exposition qui aura lieu cet automne à Narbonne. L'exposition s'appelle Veni Vidi Bâti, les leçons de Rome. Ce sera du 17 septembre au 31 décembre au Narbovia. C'est un nouveau musée qui est consacré à l'histoire romaine de Narbonne, qui a été conçu par un architecte britannique, Norman Foster, qui d'ailleurs, depuis de longues années, s'inspire des techniques de ses confrères romains. Voilà, la boucle est bouclée entre à la fois notre histoire, tous ces matériaux du futur et ces conceptions du futur. Je vous propose une petite dernière question rapidement à tous les trois. Dans quelle ville vous rêveriez de vivre aujourd'hui, Tariq Chekchak?
Une ville symbiotique, une ville où...
Qui n'existe pas, donc, pour l'instant.
Qui est en train d'être expérimentée à droite et à gauche. On approche, par exemple, dans Territory Lab, dans la vallée de la Drôme, cette question de comment habiter un territoire avec plus que l'humain. Donc c'est pas simplement l'humain, c'est un territoire, c'est aussi des tas d'autres espèces qui nous sont extrêmement importantes, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, et ça c'est extrêmement enthousiasmant.
Clémence Béchu, vous aimeriez vivre où aujourd'hui ?
Moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Tariq, moi je pense que on a vu donc cette fin du 19e et du 20e qui ont fait émerger un anthropocène qui n'a pas su composer avec la nature. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rester optimiste, l'urgence est là, mais le 21e siècle, ça peut être le siècle de la réconciliation entre les humains et la nature. Et je pense qu'on peut même imaginer que cette ville écosystémique, elle va permettre à Homo sapiens d'évoluer, de devenir un Homo circularius, qui sera un homo urbain, qui aura appris à se réintégrer dans les cycles de la nature, parce que la ville sera composée de la sorte et qu'il sera composé lui-même avec elle.
Et François Chuitaine, vous aimeriez vivre où ?
Dans une ville accueillante, qui accueille la nature, mais qui accueille aussi l'animalité. On n'a pas beaucoup parlé de ça.
C'est vrai,
mais
vous avez raison.
On est en train de réinventer cette animalité, hein. On a des ruches, on a des tas de choses comme ça. Mais quand je vois la difficulté que j'ai à promener mon chien dans Paris, je me dis qu'il y a encore du travail. Et pour retrouver ce contact avec l'animal qui manque fortement dans les villes.
Eh ben écoutez, les auditeurs sont d'accord avec vous parce qu'on a reçu un message par exemple qui nous dit « Je pense que si nous voulions laisser à la nature une place décente, les cités du futur devraient être d'immenses ruches. En gros, les cités devraient se développer à la verticale, j'imagine, des cités immeubles. » Où il y a Claude qui nous dit « Les arbres devraient être les éléments autour desquels l'habitat devrait s'organiser. Il faudrait recréer la connexion avec une nature qui permet un écosystème, une vie organique. » Et précise « Trouver de l'ombre et des gazouillis, de la vie, de l'équilibre. » Il a bien raison, c'est un numéro un peu utopique d'un été comme jamais, mais est-ce qu'on parle vraiment d'utopie, Tariq Chekchak, où on est dans la réalité là ?
Écoutez, quand on regarde une étude récente, actuellement il y a 1100 gigatonnes, donc millions de tonnes construites par l'humain, et les arbres et les arbustes dont on vient de parler, c'est 900 gigatonnes. On est dans une période de l'histoire de l'humanité inquiétante et fascinante. Donc on a une injonction au changement pour resynchroniser l'humanité, comme l'a dit tout à l'heure Clémence, avec la toile de la vie.
François Chuitaine, la prochaine bande dessinée qui évoquera la ville sera une utopie ou une dystopie, ou un peu des deux comme d'habitude?
Là, je viens de terminer un livre avec Sylvain Tesson sur la planète Mars. Et donc, il y a sur la planète Mars, dans nos visions, il y a des villes. C'est pas spécialement les villes dans lesquelles je voudrais vivre, d'ailleurs, parce que ce sont des villes enfermantes. Mais oui, on aura besoin de projection, on aura besoin de vision, on aura besoin de plus que jamais de nous faire rêver et nous donner envie à vivre la ville demain.
Merci infiniment à vous trois. Merci infiniment Clémence Béchu. Je rappelle que vous êtes directrice associée chargée du développement de l'agence Anthony Béchu et associée. François Chuitaine, merci évidemment d'avoir été avec nous. Je recommande l'ensemble de votre œuvre publiée chez Casterman, notamment Les Cités Obscures et Revoir Paris. Et puis merci Tariq Chekchak d'avoir été à mes côtés. Voilà, merci. On vous suit dans votre actualité, notamment la Expo Bio Expo qui sera tout au long de cet automne où on pourra reparler de biomimétisme.
Tout à fait, avec un accent sur les villes.
Exactement, merci beaucoup. Et puis pour prolonger ce sujet, ma prescription du jour est une expo en ligne disponible pour tous, gratuitement, sur le site pavillon-arsenal.com. C'est le centre d'architecture et d'urbanisme de Paris. Elle est consacrée à l'histoire naturelle de l'architecture. C'est passionnant. En 13 séquences, Philippe Rame, docteur en architecture, révèle une histoire inédite mettant en perspective les découvertes scientifiques, les innovations techniques, les phénomènes météorologiques et épidémiques avec la forme des villes, des bâtiments et l'aménagement du territoire. Ce numéro utopique de l'été, comme jamais, était concocté par Juliette Medevielle à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation. La programmation musicale est signée Muriel Pérez. Demain, sujet très concernant, à quoi ressemblent vos repas de famille? Est-ce que ce sont encore des moments conviviaux entre exigences alimentaires et discussions enflammées? Les déjeuners et les dîners virent parfois au champ de bataille.